Alors moi j'ai un frère, il a les cheveux bruns et j'ai les cheveux blancs. J'ai eu aussi un problème. Alors, j'aimerais qu'on aborde, si vous voulez bien, ce matin, ce sujet de la promesse de Dieu sur nos vies. Abraham a reçu une promesse de Dieu, comme quoi il aurait une descendance nombreuse, et il a donc eu, contre toute attente, à son vieil âge, un fils du nom d'Isaac. Et la parole de Dieu nous dit que... Alors, ne cherchez pas le verset. Dans Galates 4, 28, il nous est dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous sommes enfants de la promesse. Est-ce que nous en avons conscience? Nous sommes enfants de la promesse, comme Isaac. Alors, que fais-tu des promesses de Dieu sur ta vie? Comment vis-tu ces promesses? Quelle est ton attitude, ton comportement pour entrer dans la promesse que tu as sur ta vie? Alors, je vous invite à lire dans Genèse. Chapitre 25, à partir du verset 19. Genèse, chapitre 25, verset 19. Alors, si vous ne trouvez pas le livre de la Genèse, c'est soit que vous n'avez pas de Bible, c'est le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 25, à partir du verset 19. Voici l'histoire de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Il y a une invitation aux maris à prier pour leur femme. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, et elle s'écria: qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit: il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, le poilu. Non, le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance, donc 20 ans plus tard, après s'être marié avec Rebecca. Les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs, épuisé. Il lui dit: laisse-moi manger de ce roux, de ce roux-là, car je n'en peux plus. D'où le nom et d'Édom, le roux, qu'on lui donna. Mais Jacob dit, alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. Ésaü répondit, je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse. Jacob insista, promets-le-moi tout de suite par serment. Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Amen. On apprend à travers le comportement d'Isaac, Rebecca, Ésaü et Jacob que ce à quoi on donne de la valeur va influencer notre vie et va influencer la promesse que Dieu a mise sur notre vie. La valeur qu'on donne aux choses va influencer notre vie. Et si on regarde bien, Isaac se maria et n'avait pas d'enfant. Mais simplement, il savait qu'il était le fils de la promesse. Et il savait que derrière lui, il y avait la promesse de Dieu, et sur lui, il y avait la promesse de Dieu pour établir une nation. Il s'accrocha à cette promesse, il implora l'Éternel. Et lorsqu'il implora l'Éternel, Dieu répondit et donna à Rebecca d'être enceinte. Enceinte de deux nations, de deux peuples. Est-ce que tu t'intéresses à la promesse que Dieu a sur ta vie? C'est une question qu'on devrait avoir dans notre cœur. Parce que Dieu dit que toi aussi tu es frère, comme Isaac, tu es enfant de la promesse. Est-ce que pour toi la vie c'est dodo boulot? Ou est-ce que tu as ta pensée vers l'Éternel, vers celui, ce Dieu qui a mis sa promesse sur ta vie? Isaac, donc, a eu deux enfants, et il semblait à ce moment-là que la famille se comportait bien. Isaac pria, il eut des enfants, Rebecca, se voyant enceinte, sentit que quelque chose était différent en elle. Quelque chose se heurtait dans son ventre. Et donc elle s'adressa à l'Éternel et Dieu lui parla. Et moi ce qui m'étonne, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la Bible, les commandements n'avaient pas été donnés, et pourtant elle entendit Dieu lui parler en lui disant, voilà, tu as deux enfants, et de ces deux enfants naîtront deux peuples. Ça, c'est mieux qu'un scanner, c'est mieux qu'une échographie. C'est quand même puissant. Mais alors voilà que Isaac va porter son attention sur Ésaü et Rebecca va porter son attention sur Jacob. Et la parole nous dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Les valeurs qu'on donne aux gens, des fois, eh bien, c'est pour essayer d'obtenir quelque chose. Dans notre vie et dans la promesse qu'on a reçue de Dieu, Dieu ne nous demande pas d'aller vers les gens parce qu'en fait, ils peuvent nous apporter quelque chose. Il ne nous demande pas d'essayer de construire la promesse de Dieu au travers de ceux qu'il peut nous donner quelque chose. Mais pour Isaac, il regarda la vie d'Ésaü et il préféra Ésaü à Jacob. Et nous-mêmes, on peut rentrer dans ce piège de donner une position, d'aimer des personnes pour leur position hiérarchique selon la conception de l'homme. Et à ce moment-là, dans cette culture, eh bien, les gens avaient l'habitude de dire « le premier-né aura le droit d'aînesse ». C'est lui qui aura... C'est dans la culture. Et pour Isaac, il était inconcevable d'imaginer que Jacob, le second qui est né, aurait ce droit. Mais Dieu n'a pas cette même échelle de valeur. Et nous, si nous suivons la pensée de l'homme, nous allons essayer de construire cette promesse de Dieu sur la base du raisonnement humain, sur la base de la culture humaine. Et il y a ce verset dans 1 Corinthiens 1, versets 27 et 29. À partir du verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis heureux que Dieu ne m'ait pas demandé de lui donner mon CV pour rentrer dans sa promesse. Je suis heureux que Dieu ne m'ait pas demandé, tiens, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, pour être accepté par lui. Et je pense que pour chacun d'entre nous, il y a cette même grâce de Dieu. On a été accepté par Dieu sans que Dieu nous demande quoi que ce soit. Il n'a pas de favoritisme. Il nous accepte tel que l'on est. Il nous demande simplement, est-ce que tu veux venir sous mes ailes? Est-ce que tu veux être couvert par mon amour? Est-ce que tu veux venir sous ma protection? Est-ce que tu acceptes mon amour? Alors, si dans notre pensée, on a des craintes de venir à Dieu parce qu'on ne se sent pas qualifié. Dieu nous rappelle que lui ne regarde pas à cela. Il est venu chercher des personnes, non pas par rapport à leur position hiérarchique. Et Loïc en faisait référence ce matin. Nous sommes acceptés par Dieu, tels que nous sommes. Et c'est la grâce de Dieu. La deuxième chose, c'est Rebecca. Rebecca, elle, aimait Jacob, mais délaissait Ésaü. Alors Rebecca avait reçu cette promesse de Dieu. Elle avait entendu Dieu lui dire, c'est le cadet, le second, dominera sur le premier, sur Ésaü. Et son cœur se tourne vers Jacob et délaisse Ésaü. Mais les deux enfants sortaient d'Isaac, et les deux enfants avaient pour moi une bénédiction sur leur vie. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et en agissant ainsi, elle a finalement poussé Isaac à se disqualifier. Est-ce que nous, dans notre vie de chrétiens, est-ce que nous suivons les personnes parce que, en fait, leur avenir semble être plus prometteur? Et est-ce que, en fait, nous n'essayons pas de construire la promesse de Dieu au travers de ceux qui semblent aller plus loin? Dieu nous amène à une chose, c'est de réaliser que sa promesse sur nos vies ne dépend pas des personnes autour de nous. Elle dépend de sa volonté sur notre vie. Est-ce que nous n'essayons pas des fois de contrôler les événements de notre vie et les gens par notre affiliation avec des gens, des personnes, en essayant d'obtenir des faveurs? Et pour Rebecca, c'était sûrement une sécurité pour elle de se dire « Je vais donner mon appui à Jacob parce que peut-être qu'avec lui, j'aurai plus de réussite et je serai plus protégée dans ma vie. » Alors, si nous essayons de contrôler les gens aussi autour de nous, comme Rebecca a pu le faire ou comme Isaac a pu le faire, nous allons créer plus de désordre dans nos vies. Dieu veut que nous travaillions avec les uns et les autres, mais que nous respections l'ordre de Dieu sur leur vie. Ce n'est pas à nous de contrôler la vie des gens, ce n'est pas à nous de contrôler la promesse que Dieu a sur les uns et les autres. Mais c'est de travailler ensemble et de reconnaître que Dieu a cette puissance de conduire chacun là où il le veut, dans le plan que Dieu leur a choisi. Et pour aller plus loin, pouvons aller au verset suivant, dans Deutéronome 10, versets 17 et 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable qui ne fait pas de favoritisme. Il ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est sûr que Dieu donne différents dons à chacun, mais Dieu ne prête pas plus d'honneur à quelqu'un par ses qualités professionnelles ou autres. La troisième chose que nous pouvons voir à travers ce récit, c'est que Jacob voulait de tout son cœur ce droit d'aînesse. Vous savez, le droit d'aînesse, c'était pour le premier-né, en fait, l'assurance d'être prêtre sur sa famille. C'était aussi celui qui réglait les problèmes de la famille qui restait. C'était lui qui avait une double portion aussi de l'héritage. Et puis derrière l'héritage, il y avait la promesse de Dieu aussi qui était donnée à cette personne. Cette bénédiction de Dieu qui lui était donnée. Et Jacob, lui, reconnaît la valeur du droit d'aînesse. Il reconnaît la valeur d'être couvert par la promesse de Dieu sur sa vie. Et Jacob va vivre quelque chose dans sa vie d'assez particulier. Parce que alors qu'il aime Dieu, alors qu'il aime la promesse de Dieu, il va agir avec sa propre chair. Il va y avoir en lui la séparation, si vous voulez, un combat entre la chair et l'esprit. On voit Jacob était celui qui restait dans les tentes, c'était celui qui passait du temps peut-être à réfléchir. La parole nous dit qu'il était quelqu'un de tranquille, donc c'est-à-dire qu'il avait du temps pour se poser, pour réfléchir. Ésaü, par contre, lui, était quelqu'un qui partait à la chasse. Il était tout le temps en activité. Il était peut-être rarement dans le camp. Et lorsqu'il est revenu dans le camp, Jacob avait été en train de préparer un potage. Et je pense que dans l'esprit de Jacob, il y avait tellement ce désir pour lui d'avoir ce droit, c'est cette promesse de Dieu sur sa vie qu'il avait déjà planifié de quelle manière il l'obtiendrait. Il connaissait les habitudes d'Ésaü. Il savait que quand il rentrait de la chasse, celui-ci avait faim et était épuisé. Et chose étonnante, c'est que Jacob attendit qu'Ésaü rentre de la chasse et il lui dit, et Ésaü vint vers lui et lui dit « donne-moi à manger parce que j'ai faim, je suis trop épuisé ». Et Ésaü, au lieu de lui donner à manger, lui dit « écoute, donne-moi ton droit d'aînesse ». Il y avait dans le cœur de Jacob quelque chose qui n'était pas pur. Vous vous rendez compte un peu de la manipulation ? Votre frère arrive, il est épuisé, et vous lui dites « donne-moi quelque chose, donne-moi ton héritage, et tu auras à manger ». Jacob essayait de construire la promesse de Dieu sur sa vie. Il n'avait pas cette confiance en Dieu. Et la parole nous dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Un des points importants pour nos vies, pour nos vies chrétiennes, pour vivre la promesse de Dieu, c'est d'avoir confiance en Dieu. Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu as la foi ? Qu'en te confiant en Dieu, il aplanira tes sentiers. Est-ce que tu as foi pour ta vie chrétienne, pour les promesses que Dieu a dans ta vie, qu'il veut aplanir tes sentiers, qu'il va aplanir tes sentiers ? Il faut pardonner à Dieu, oui. On pourra en parler après si vous voulez. Oui, on pourra en parler si vous voulez après. S'appuyer sur la sagesse de Dieu et laisser Dieu aplanir nos sentiers. Vous voyez, là, c'est plus une question de savoir qui peut m'apporter quelque chose ou quelle est la position d'une personne. Mais c'est de se tourner vers Dieu. Dieu a cette capacité d'aplanir nos sentiers et il veut le faire. Et peut-être que tu te questionnes et tu te dis oui, mais je cherche la volonté de Dieu, je cherche le plan de Dieu, ou peut-être je connais le plan de Dieu pour ma vie, mais je ne sais pas comment y aller, comment faire, comment parvenir à résoudre tous ces problèmes. Je ne sais pas comment j'arriverai à obtenir un billet d'avion, à obtenir ceci, cela. Et en fait, tu t'entoures de tellement de problèmes que tu en oublies à regarder à Dieu. Mais Dieu, la parole de Dieu, c'est confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Qu'est-ce que notre sagesse, des fois, veut essayer de prendre la relève ? Elle nous dit tellement les choses en avance, elle nous dit « Oui, mais tu ne te rends pas compte, tu ne peux pas, parce que et puis c'est pas sage. Non, tu ne peux pas faire ceci, parce que ça va frustrer les gens. Non, tu ne peux pas faire cela, parce que les gens ne te comprendront pas. » Ou te dire « C'est pas raisonnable. » Mais Dieu nous demande de nous détourner de nos propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est-à-dire, garde ton cœur pur. Peut-être que tu as envie de faire des choses pour parvenir là où Dieu t'a donné une révélation. Peut-être que tu as envie de construire par toi-même. Tu t'agrippes à quelque chose. Mais détourne-toi du mal. Parce que ton cœur est peut-être prend des voies détournées, des chemins détournés. Et là, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Dans Galates 5, 17, il est dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il y a bien nos désirs et les désirs de Dieu. Il y a les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Quand Jacob était en train de cuisiner ce potage, cette soupe, je me posais des questions. Est-ce que nous, des fois, dans notre pensée, on n'est pas pareil? On cuisine quelque chose dans nos pensées. Qu'est-ce qui est en train de cuisiner dans nos têtes? Qu'est-ce qui cuisine quelquefois dans nos têtes? Quelle recette est-ce que nous préparons dans nos têtes? Comme Jacob, je me dis, mais Jacob, pour préparer cette soupe, ça a pris du temps quand même. Il avait le temps de penser. Je suis sûr que les cuisinières, lorsqu'elles font la cuisine, elles ont le temps de penser à autre chose que les carottes qu'ils sont en train de cuire. Et Jacob, c'était pareil, il avait le temps de penser, de considérer ses voies et de se dire, oh là là, ce que je fais quand même, c'est pas droit. Ésaü va venir et puis il va me demander à manger parce qu'il a faim et moi je vais lui dire donne-moi ton héritage. C'est quand même fort. Est-ce que des fois on n'est pas tortueux dans nos pensées, tordu dans nos pensées? On essaye de manipuler, on essaye de concevoir déjà le plan de Dieu alors que lui, Dieu dit mais j'ai tout prévu. Confie-toi en moi et je vais te montrer, je vais te donner la sagesse et ce sera bon pour tes os. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Il y a un combat entre la chair et l'esprit en nous. Nous devons en être conscients. Si nous gardons notre cœur tel que Dieu le veut, il va nous diriger. Si nous gardons notre cœur pur, nous allons suivre ses voies et nous allons rentrer dans les promesses qu'il a pour nos vies. Nous devons admettre que bien souvent dans le passé, nous avons peut-être fait des erreurs et que si nous avions laissé Dieu nous parler, on n'aurait pas fait ces erreurs-là. Nous devons admettre que des fois, on a cette belle expression française de ne pas faire les choses à notre sauce. Et je trouve que ça va très bien avec Jacob. Jacob faisait planifier, lui, la volonté de Dieu, la promesse de Dieu à sa sauce. Mais c'est sûr, il y a une promesse sur chacune de nos vies. Chacune de nos vies, il y a une promesse, la promesse de Dieu. Mais Dieu nous dit, fais pas les choses à ta sauce. Laisse-moi faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Mais laisse-moi faire. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Mais je vais te révéler. Mais toi, garde ton cœur pur. N'essaye pas de manipuler. Jacob, c'était un manipulateur, un usurpateur, quelqu'un qui pensait tout le temps, qui planifiait. Et puis finalement, il va se retrouver à être lui-même estorqué. Et puis alors, quand par son beau-père. Et puis malgré tout, il va retomber sur ses pattes. Et il va partir de son père, il va fuir de son père, de son beau-père. De chez son beau-père, avec plein de biens. À deux fois, Jacob s'enfuit par ses erreurs, par ses manipulations. Nous risquons de prendre des chemins détournés. À avoir cette pensée de Jacob. Et pourtant, il y a une promesse sur la vie de Jacob, comme il y avait une promesse sur la vie d'Isaac, comme il y a une promesse sur chacun d'entre nous. Alors, comment se comporter en fait? On va regarder dans le prochain verset, Matthieu 20, 26. Plutôt que de manipuler, le Seigneur dit, quiconque veut être grand. Et c'était la volonté de Jacob. Jacob voulait être le premier en tout, il voulait avoir le meilleur. Et il dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Être serviteur. Continuez à avoir ce cœur. Et dans l'Église, nous avons tous cette promesse de Dieu sur nos vies. Et nous sommes tous appelés à être serviteurs. Et si nous avons ce cœur de serviteur, Dieu va nous... C'est un cœur pur. Le cœur de serviteur, c'est un cœur pur. On devrait tous dire, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi, montre-moi tes voies. Et pour finir, Dieu nous demande de porter nos regards vers le haut et d'avoir, de trouver la valeur, les richesses dans les richesses célestes. Alors, Ésaü répondit à Jacob, « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Que m'importe cette richesse qui s'attache au droit d'aînesse, qu'importe cette bénédiction que Dieu veut me donner, peu importe, moi je suis un chasseur, j'aime être dans la nature, j'aime être à faire ce que je veux, à faire comme je veux, à satisfaire mes envies, d'être dans la nature et de chasser, de prendre du gibier, de le ramener à mon père. Peu importe des choses de Dieu, je n'y pense pas. Ésaü mangea et nous est dit, et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Il n'y a en lui aucune repentance. Il ne se rend même pas compte qu'il vient de perdre quelque chose. Et la question qu'on devrait se poser, c'est, il y a une bénédiction sur nos vies. Il y a une promesse sur nos vies, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on la néglige comme Ésaü en se disant « Je vais au travail, je mange, je vais en vacances. » Mais on oublie Dieu. On oublie qu'il y a une promesse sur nos vies et que Dieu veut nous amener là où il l'a prévu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, 1 Corinthiens 2, verset 14. « Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, l'homme livré à lui-même, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les reconnaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Parfois, nous pouvons devenir des hommes charnels qui oublions, en fait, cette bénédiction, cette promesse qu'il y a sur nos vies. Et nous oublions que nous devons l'inculquer, non pas à ceux qui nous entourent, la famille, les enfants, ceux qui nous entourent. Il y a une promesse que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors la clé pour garder cette promesse vivante, on finira par ce verset, Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. Mais là où, pour terminer, là où vraiment, je voudrais encourager chacun d'entre nous et moi-même, c'est d'être conscient qu'il y a une promesse sur nos vies, comme elle était sur Isaac et comme elle est sur nous tous. Et que la façon dont nous nous comportons va interférer sur cette promesse ou bien l'amener puissamment à son accomplissement. Nous n'allons pas perdre de temps. Et si vous lisez la suite de Jacob, vous allez voir que Jacob va devoir rencontrer Dieu d'une manière difficile, dans la nuit, seul. Durant ce moment de solitude, il aura peur pour sa vie. Il aura peur pour la vie de sa famille, de sa femme et de ses enfants, de ses troupeaux. Il sera blessé à la hanche. Et dans sa douleur, dans sa solitude, il rencontrera Dieu. Et il criera à Dieu et il dira à Dieu, « Bénis-moi, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'es pas béni. » Gardons en tête que Dieu a une promesse sur nos vies et gardons un cœur pur. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Prions un instant. Ô Seigneur, merci pour vraiment cette vie que nous avons en toi, Jésus, et donne-nous vraiment de considérer que nos vies, ce n'est pas de nous focaliser sur les choses de cette vie uniquement, mais de porter nos regards vers toi, de savoir à tout moment que tu as cette promesse sur notre vie. Enrichis, Seigneur mon Dieu, chacun de mes frères et sœurs ce matin, afin que la dimension de cette richesse spirituelle soit révélée, afin que ce trésor céleste soit révélé. Afin, Seigneur, que chacun d'entre nous soyons attirés vers les richesses des cieux, du royaume de Dieu, ici-bas sur cette terre, et que notre cœur, Seigneur, vraiment s'applique à chercher le plan que tu as pour chacune de nos vies, avec insistance, par la prière, en t'implorant. Merci Jésus. Amen.
Amen. Gardons nos yeux fermés. Et peut-être ce matin, quelques-uns ont besoin de connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Besoin de comprendre, vous pouvez rester avec moi, la promesse que Dieu a mise sur leur vie. Et ce matin, on veut prier pour vous. Et je vous invite à vous lever à votre place si vous souhaitez ce matin recevoir cette onction où Dieu va se manifester pour que tu puisses être ce porteur de vie, être celui qui sème dans la justice et la droiture de Dieu, afin de récolter le fruit que Dieu a prévu. Dieu a une promesse pour toi. Il y a une promesse pour toi sur ta vie. Lève-toi ce matin à ta place, comme pour se lever, pour saisir cette promesse et marcher de l'avant sans qu'il y ait ni crainte, ni blocage, ni manipulation, mais seule l'onction et la puissance de Dieu qui te conduit. Demande à Dieu ce matin d'éclaircir tes pensées. Demande à Dieu ce matin et à travers cette position debout, tu reçois de Dieu l'onction et l'éclairage pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je réclame pour tous ceux qui se lèvent ce matin. Seigneur, une onction particulière.
Oui, Seigneur, merci.
Seigneur, ta lumière dans leur vie, ta lumière dans leur cœur, dans leurs pensées. Nous ne marchons pas suivant un destin, mais suivant une destinée que toi déjà tu as tracée dans les cieux. Tu dis que tu connais notre nom. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et à partir de ce nom, tu traces une destinée. Alors Seigneur, je te prie pour chacun ici présent, Seigneur. Nous sommes appelés à porter du fruit, cher frère.
Oui, Seigneur, amen, amen.
Et Dieu te demande de te mettre en marche comme un semeur qui met la main dans sa besace pour prendre les graines. Il y a cet effort à faire et les jeter à la surface de la terre.
Seigneur, merci.
Et la terre est préparée aussi avant.
Amen.
Dieu t'invite ce matin
à
être courageux, mais aussi à t'abandonner dans ses mains parce que c'est lui qui bâtit son église. C'est lui qui bâtit nos vies.
Oui.
Au nom de Jésus-Christ.
Oui.
Nous pouvons aussi déclarer que toutes les flèches enflammées de l'ennemi, celui qui veut te freiner, celui qui veut te ralentir pour entrer dans l'appel qui est sur ta vie, l'appel de Dieu, eh bien tous ces projets sont brisés maintenant.
Amen. Amen.
Parce que toi aussi, tu gardes une vie sainte. Tu fais aussi ce qu'il faut.
Merci, Jésus.
Merci, Seigneur.
Alléluia,
Alléluia Jésus. Merci Seigneur parce que tu as tout pourvu dans les cieux.
Merci Jésus.
Des projets même qui nous dépassent. Alléluia. Tu lèves une génération de semeurs, une génération de moissonneurs. Une génération qui est digne du nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais appeler Rosemary, on va faire l'onction d'huile ce matin sur notre sœur. Je vais appeler aussi Paul et Andrea, on va continuer de prier pour ce papa, que l'onction de guérison, ce papa qui a perdu sa mobilité, sa parole, soit touchée ce matin. Qu'il y ait une onction de guérison. Je vais appeler aussi Francis qui souffre encore dans son pied suite à l'opération. Si tu veux bien mon frère, on va prier pour toi, qu'il n'y ait plus de douleur. Prions ensemble. C'est pas juste nous les pasteurs qui allons prier, mais c'est ensemble l'Église qui porte aussi ceux qui souffrent. Amen. Alors levons-nous ce matin. En pratique, en avant ce matin pour te demander ton soutien, ta force. Nous l'avons entendu ce matin, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu es toujours là. Et tu n'es pas un Dieu qu'on peut tromper ni manipuler. Tu es un Dieu juste et véritable. Et Seigneur, dans ta justice, dans ton amour, Seigneur, tu veux fortifier nos vies. Et on te remet notre sœur, Seigneur. Tu vois cette intervention encore pour ce deuxième œil, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de conduire la main des médecins. Et déjà, nous te réclamons un rétablissement. Bref et rapide, au nom de Jésus-Christ, que sa foi aussi grandisse dans ces temps, Seigneur, qu'elle se confie comme elle ne s'est jamais encore confiée en toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Comme tes anges autour d'elle, Père, au nom de Jésus-Christ. Tu oins sa vie, Seigneur, de ta présence et de ton esprit, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je te prie de le renouveler, Seigneur, et tu nous as accordé la grâce de pouvoir accomplir ta parole. Tu nous dis qu'on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je sais que tu nous as donné des mains qui sont des mains pour travailler, mais qui sont aussi des mains pour bénir. Alors au travers de ce que nous faisons, Seigneur, c'est en ton nom que nous le faisons. Et je te prie que tu visites Francis dans sa santé, que tu le visites dans tout son être, Seigneur, que ça soit aussi une bénédiction sur lui et sur toute sa famille. Seigneur, je t'en remercie de prendre soin de lui et de répondre à notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
On va prier pour Paul et Andrea. Vraiment que, ensemble, on peut tendre nos mains aussi. On pense à ce papa qui est dans son lit là-bas, en Écosse, et qui a perdu sa mobilité. Il comprend tout, mais ne peut pas s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Et que vraiment, bien, tout ce qu'il a pu vivre à travers... c'est une hémiplégie, une tumeur au cerveau. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais que vraiment, il y ait la grâce de Dieu sur cette famille. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous réclamons ton onction, Seigneur, sur cette famille. Seigneur, que tu triomphes au milieu des difficultés, que tu relèves dans la faiblesse, au nom de Jésus-Christ. Nous implorons ton nom, Seigneur, sur la vie de cet homme ce matin, Seigneur. Que tu te manifestes avec puissance, au nom de Jésus-Christ. Je réclame, Seigneur, une onction de guérison, de transformation, de libération au sein de cette maison, là où il est, Seigneur, ce matin. Amen. 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 Alléluia. Juste avant de se quitter, de vous inviter au café et au gâteau, si quelques-uns ont besoin de la prière maintenant, qu'ils puissent s'approcher, on va prier pour vous. On croit vraiment que Dieu veut agir, mais sentez-vous libre d'aller au café, au thé. Moi, je reste à disposition pour prier pour vous si vous avez besoin. On va terminer avec un chant. Allez, c'est parti, Alain.
Jésus.
Approchez-vous si vous avez besoin de la prière.
Jésus, thank you. parcourant les monts et les mers. Ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, ô mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi, parcourant. Passerai ma vie à chanter.